cette question du pardon, elle concerne d'abord pour chacun de nous notre santé spirituelle, avant même de concerner la relation à autrui. Et Jésus nous révèle qu'elle ne concerne pas simplement notre vie intérieure comme telle, mais elle concerne plus précisément notre relation à notre Père du Ciel, puisque ce qui se joue dans le pardon, c'est notre capacité d'aimer comme Dieu aime. Rappelez-vous les paroles du Christ, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. » Alors nous allons essayer de voir dans quel esprit nous devons vivre le pardon, en quoi il consiste, et par quel chemin nous pouvons parvenir à un pardon de tout cœur. Alors, l'esprit dans lequel nous devons vivre le pardon, c'est, comme je vous l'ai dit, d'abord de nous situer, j'ai envie de dire, à la fois face à Dieu et face à nous-mêmes. Face à Dieu, parce que notre vocation, c'est d'entrer dans un amour nouveau. Notre vocation, c'est de vivre de l'amour divin. Et pour ça, j'ai envie de dire, la pierre de touche, c'est se joue sur le pardon. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et qu'en même temps, à travers ce chemin du pardon, donc se joue la guérison de notre cœur. Écoutez le Siracide. Pardonne à ton prochain ses torts, alors à ta prière tes péchés te sont remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre, comment peut-il demander à Dieu la guérison? La colère, ça bloque tout. Et dans un chemin intérieur de guérison, on s'aperçoit que le moment décisif par lequel le Seigneur peut nous libérer intérieurement, c'est le moment du pardon. Et donc, je conclue, que l'autre reconnaisse ou non ses torts, que nous ayons envie de renouer avec lui ou non, de toute façon, il est la question du pardon, elle est absolument vitale pour notre avenir humain et spirituel, pour notre relation à Dieu. Que le Seigneur nous libère de ce poison qu'est le ressentiment. Et comment pouvons-nous nous ouvrir à cette grâce du pardon? Comment pouvons-nous cheminer sur ce chemin? Mais d'abord en reconnaissant que c'est une grâce. Parce qu'il s'agit d'aimer comme Dieu aime. Ce ne sera jamais quelque chose que nous pourrons vivre naturellement. Le catéchisme du Concile de Trente dit même qu'il n'y a rien de plus difficile à notre nature humaine dégradée que de pardonner les injures. Et pourquoi c'est important de prendre conscience que le pardon nous dépasse, que ce n'est pas quelque chose qui est à mesure humaine? Parce que si nous voulons nous offrir à la grâce de Dieu, il faut être conscient de notre incapacité propre. C'est-à-dire aussi ne pas confondre notre vouloir pardonner avec le pardon lui-même. Entre le vouloir et le cœur, il y a un abîme. Comme dit saint Paul, vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. Et donc la première chose, c'est de prendre conscience que même si nous voulons, notre cœur, lui, n'arrive pas à suivre. C'est le cœur qui a besoin d'être libéré de ce poison qu'est la rancune. Et donc, la première chose, c'est de ne pas tomber dans, de l'acharnement, au sens de compter sur nos propres forces à vouloir pardonner, alors qu'en réalité, il s'agit d'abord d'entrer dans une attitude d'humilité. Dieu donne sa grâce aux humbles. Et plus nous serons en contact avec notre impuissance à pardonner, et plus Jésus pourra nous donner cette grâce. Et pourquoi c'est si dur de pardonner? Pourquoi c'est si, je dirais, contraire à notre réaction spontanée? Écoutez Benoît XVI. Qu'advient-il dans le pardon? La faute est une réalité objective, elle a causé une destruction qui doit être surmontée. C'est pourquoi le pardon doit être plus qu'une volonté d'ignorer ou d'oublier. La faute doit être assumée, réparée et ainsi surmontée. Le pardon a un coût et d'abord pour celui qui pardonne. Le mal qui lui a été fait, il doit le surmonter intérieurement. Le brûler au-dedans de lui et ainsi se renouveler de sorte qu'il fasse entrer l'autre, le coupable, dans ce processus de transformation et de purification intérieure. Que tous les deux se renouvellent en souffrant le mal jusqu'au fond et en le surmontant. Et Benoît XVI conclut en disant « C'est là que nous butons sur le mystère de la croix du Christ. » Et tout d'abord, nous butons sur les limites de nos propres forces à guérir et à surmonter le mal. Nous butons sur la supériorité du mal que nous pouvons vaincre par nos seules forces. Le péché a une puissance de destruction que nous ne mesurons pas immédiatement. Nous ne prenons progressivement conscience dans notre vie spirituelle. Le péché est plus fort que nous. La conclusion qu'il faut tirer. Il n'y a qu'un amour qui a réussi à surmonter le péché, c'est l'amour qui était dans le cœur du Christ sur la croix. Et prendre conscience que le péché, ce n'est pas de l'ordre de quelque chose, je dirais, comment dire, qui pourrait être relativisé, voyez, que je pourrais, minimiser et surmonter par la pensée, mais qu'il a une puissance propre de destruction et que personne n'y échappe. Et je dirais même que plus on se rapproche de Dieu, voyez, quelque part plus c'est difficile de pardonner, au sens où plus on prend conscience de ce mal du péché. On en mesure de plus en plus la profondeur. Donc il ne faut pas penser qu'au fur et à mesure qu'on avance, on va mieux vivre les injustices ou tout ce qui est contraire à l'amour dans notre vie. Mais au contraire, plus on avance, plus on mesure la profondeur de ce combat qu'est le pardon, et en même temps, plus on s'ouvre à l'unique amour qui puisse anéantir, assumer et anéantir le mal du péché, qui est cet amour de charité que Jésus est venu répandre dans nos cœurs comme un feu. Et j'aime beaucoup cette expression de brûler le péché, voyez, avec le feu de cet amour nouveau qui est dans le cœur du Christ et que Jésus veut nous communiquer. C'est très différent, voyez, que de se dire, bon, voilà, il faut que je pardonne, je suis chrétien, je dois pardonner, il faut que je pardonne, c'est pas si grave, essayons, passons au-dessus. Non, je passe pas au-dessus, je traverse. J'assume avec Jésus. Ici, on peut déjà dire aussi que sur la croix, Jésus a payé le prix de tous nos pardons. En souffrant ce qu'il a souffert, précisément, lui, il a tout consumé du feu de son amour. Et en même temps, on ne peut pas nous libérer sans que nous entrions dans le même amour par lequel nous avons été libérés. Josiane, est-ce que vous connaissez des personnes qui se sont illusionnées dans leur don?
En dehors de moi.
Moi aussi. Oui, c'est difficile, je crois que c'est un chemin et pour se laisser traverser, il faut accueillir cette souffrance que l'on ressent parce qu'elle est le signe de la blessure et c'est peut-être une des choses aussi les plus difficiles, c'est de se laisser ressentir cette souffrance qui nous habite pour pouvoir la laisser partir. Pour pouvoir la laisser partir, il faut vraiment la vivre. Voilà. Parce que on peut très vite effectivement avoir la tentation de rentrer dans le déni, ce qui est profondément humain, hein. C'est-à-dire de faire comme si ça ne nous atteignait plus trop. Et quelquefois on se rend compte que des années après, on revient sur une question que l'on croyait avoir traversée ou sur un pardon que l'on croyait avoir donné.
C'est aussi une question d'humilité que de reconnaître que ça nous fait souffrir, plus qu'on le voudrait. On est plus fragile que ce que l'on pensait, et notre colère, au fond, c'est aussi une manière, notre première manière de nous défendre, d'essayer de diminuer cette souffrance, parce que la colère, c'est un peu comme quelque chose qui va... comment dire ça, d'une certaine manière, ça nous blinde un peu, hein. Ça nous permet, entre guillemets, ça nous donne l'impression de pouvoir encaisser les choses. Ça calme l'angoisse, non?
La colère et la tristesse sont en fait des réactions aux blessures. Et donc elles sont le signe que nous sommes blessés. Dans un premier temps, il est important de les accueillir comme tels. Parce qu'on pourrait se dire, non, je n'ai pas le droit de me mettre en colère, mais dans un premier temps, la colère, elle nous permet, en tous les cas, de traverser aussi quelque chose. Et ne pas accueillir la colère ou la tristesse ou toute autre émotion, c'est quelque part aussi se manquer de respect à soi. Donc ça, c'est une première étape très importante. Après, le risque, effectivement, c'est de s'enfermer. Soit dans la colère, soit dans la tristesse. Et là, il s'agit d'autre chose.
Vous voyez, ça rejoint ce qu'on est en train de dire, rejoint ce qu'on a vu la dernière fois par rapport à la pénitence. Il y a le péché et l'attachement au péché. Ce qui est grave, c'est pas de ressentir de la colère, c'est notre réaction première au mal. Je pense que c'est une réaction de défense, essentiellement. Mais ce qui est grave, c'est de nourrir la colère. D'ailleurs, c'est ce que dit le Séracide, hein, que je veux signer. Si un homme nourrit de la colère contre un autre, comment peut-il demander à Dieu la guérison? Ce n'est pas si un homme éprouve de la colère, mais s'il la nourrit parce que quelque part, il ne veut pas la lâcher. Alors, dans ce ne pas vouloir la lâcher, ce n'est pas qu'une question de volonté, c'est que notre cœur n'y arrive pas. C'est au niveau du cœur que ça se passe. Donc on n'a pas un pouvoir absolu là-dessus, sur cette complicité intérieure au ressentiment. Mais on peut faire un chemin avec Jésus. Nous allons essayer d'expliquer maintenant, dans la lumière de la parabole du débiteur impitoyable. Vous connaissez bien cette parabole d'un roi qui voulut régler ses comptes. Et on lui amène quelqu'un qui lui devait 10 000 talents. Comme il n'a pas de quoi rembourser, bon, le maître demande qu'on le vende avec tous ses biens, et alors il tombe à terre, au pied de son maître, en disant « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de pitié, le maître, ce serviteur, le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler, en disant « Rembourse ta dette. » Alors tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Ses compagnons, en voyant cela, furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Vous connaissez la fin. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'ai eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. C'est ainsi que votre Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Vous avez bien entendu ce que dit le serviteur au moment où il se jette sur son compagnon pour l'étrangler. Rembourse ta dette. Le ressentiment, c'est une volonté de régler les comptes, de faire payer. La première chose que nous pouvons dire ici, c'est que pardonner commence, donc première étape du pardon, c'est de renoncer à se faire justice à soi-même. Autrement dit, à juger l'autre en l'enfermant dans sa faute. Je dis l'enfermant dans sa faute parce qu'il le jette dans une prison. Autrement dit, il ne laisse pas libre de changer. L'autre lui dit, mais prends patience envers moi, c'est-à-dire, aie confiance que je peux changer, je peux me racheter. Et dans le ressentiment, je désespère de l'autre dans cette soif de régler les comptes avec lui. Et je dirais ici que d'une manière qui me dépasse, mais quand on, au fond de son cœur, on a ce jugement sur l'autre, cette volonté de régler les comptes, c'est de fait comme si on l'étouffait. On le serre à la gorge, et même si les choses ne se disent pas, il y a quelque chose qui pèse sur la personne vers laquelle je garde ce ressentiment. Ça se passe dans l'invisible. Et je pense personnellement que la culpabilité que la personne qui a fauté éprouve, elle est accrue par ce jugement qui pèse sur elle, qui est dans mon cœur, et qui rejoint le sien. Et ici, il faut penser qu'il y a une interaction, comme dit Jean-Paul II, entre les âmes, que ce que je vis intérieurement rentre dans ce que l'autre vit intérieurement. Quand Jésus dit « Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés, acquittez, vous serez acquittés », il nous montre un processus qui commence par le non-jugement, c'est-à-dire ne pas enfermer l'autre dans ce regard qui condamne. Dans le pardon, de fait, on consume quelque chose, on anéantit quelque chose. Et donc, on anéantit quelque chose, cette réalité du péché qu'on accepte de porter avec Jésus, et de brûler par le feu de l'amour. Et à ce moment-là, l'autre en est libéré. C'est exactement ça que Jésus a fait pour nous sur la croix. C'est pardonner, c'est participer à une œuvre de rédemption. C'est participer à une œuvre de rédemption, c'est plus que simplement laisser à l'autre le temps. Vous savez, le compagnon dit « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout ». Mais en réalité, dans la parabole, le maître demande plus, il dit « Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon et lui remettre sa dette ?» C'est-à-dire, on fait plus que simplement, dans le pardon, penser que l'autre peut changer et qu'un jour il pourra réparer le tort qu'il nous a fait, mais on va jusqu'à une remise complète de la dette. Et la remise complète de la dette, c'est quoi? C'est quand l'amour consume, quand l'amour accepte d'assumer. J'ose pas dire qu'on prend sur soi, parce qu'en réalité c'est Jésus qui porte tout, le poids du péché. Mais on laisse Jésus nous associer à cet amour qui est capable de porter, et plus que de porter, mais de vaincre le poids du mal, de le surmonter. La parabole se termine avec un homme qui se retrouve lui-même enfermé. Le refus de pardonner nous enferme nous-mêmes. Je veux dire que on étouffe, on s'étrangle aussi soi-même, on étrangle notre propre cœur en refusant de lâcher cette colère. La dernière parole de Jésus, c'est si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. J'ai regardé en grec, c'est littéralement si chacun de vous ne pardonne à son frère venant de son cœur. C'est-à-dire un pardon qui vient du cœur, et qui est donc autre chose que celui que je voudrais fabriquer à la force du poignet. Dans cette parabole, on a l'image d'un homme qui se serre contre un autre. Il l'étouffe, mais il est serré contre lui. En fait, j'ai une revendication par rapport à l'autre, c'est-à-dire aussi une attente. Il doit reconnaître ses fautes. Il doit payer. J'ai une attente qui fait qu'en réalité, je demeure lié à lui, mais d'une mauvaise manière. C'est aliénant, le ressentiment. J'attends quelque chose d'un autre, et je n'en démords pas, et je reste dépendant de lui. Dostoïevski a dit, quelque part, pour être libre et en finir avec le monde, il faut pardonner, pardonner et pardonner. Pour être libre, mais libre aussi vis-à-vis de l'autre. Je rajouterai aussi que en gardant la colère, je tends aussi quelque part à reproduire ce que j'ai subi. C'est comme si on se vengeait sur les autres, à défaut de pouvoir se venger sur la personne. On m'a fait ça. J'ai connu comme ça des personnes atteintes du sida qui avaient été contaminées et qui contaminaient volontairement d'autres personnes. Faute d'avoir pu pardonner à la personne qui les avait contaminés, elle reproduisait. Le cœur de l'homme, il peut aller loin dans la malice. Mais ça, c'est la conséquence du ressentiment. Et on peut se dire que dans des familles, comme ça, il y a des reproductions. Fait qu'on, il y a des péchés qui n'ont jamais été pardonnés, qui se reproduisent de génération en génération. Et faute d'une âme assez sage et généreuse pour aller jusqu'au bout du pardon, et c'est-à-dire aussi casser l'engrenage. Josiane, vous confessez.
Ben, dans le sens où, effectivement, quelquefois, on peut se trouver aux prises avec une souffrance et on a du mal à identifier en quoi elle nous appartient. Et il peut y avoir ce travail-là, à identifier qu'est-ce qui s'est passé au-dessus de nous, dans les générations précédentes, serait-ce que dans l'histoire de nos parents, de nos grands-parents, ça peut vraiment nous éclairer. Qu'est-ce qu'on porte de manière inconsciente?
Les choses se font par couches. Successives sur ce chemin du pardon. Nous l'avons déjà dit, il y a un chemin de vérité sur la réalité du mal, sur ma réaction au mal. Et par rapport à ça, tous les psychologues sont unanimes, hein, pardonner c'est autre chose qu'oublier, au sens d'un déni, d'un refoulement. Néanmoins, même si on ne doit pas confondre le pardon et l'oubli, je me permets quand même de souligner qu'on n'a pas pour autant un droit de ressasser les choses. Parce que la meilleure manière de nourrir la colère, c'est de ressasser les choses. Et autant il est... Le Seigneur ne demande pas de refouler la conscience des choses. Pourtant, je crois qu'il faut faire attention, si on veut se disposer à cette grâce du pardon, de ne pas donner des aliments quotidiens à la colère. Une autre chose aussi, c'est qu'une fois qu'on a pardonné, un des signes, c'est qu'on n'y pense plus. Et là, ce n'est pas un refoulement, c'est un bon oubli. Au sens où, de fait, la faute ayant été assumée, consumée, il n'y a pas de raison d'y repenser. Vous savez, la réponse du Seigneur à Sœur Faustine, qui lui demandait, c'était un prêtre qui avait demandé à Sœur Faustine, demande à Jésus quel est le dernier péché que j'ai confessé. Et
voulait comme ça savoir si c'était des apparitions authentiques ou pas, et Jésus a répondu, dit à ce prêtre que je l'ai oublié. Et donc quand Dieu pardonne, il oublie. Et c'est le fruit du pardon. Ce n'est pas le chemin du pardon, c'est le fruit du pardon. Mais pourquoi ne pas en demander la grâce?
Je crois que oui, la différence avec le déni et le refoulement, c'est que lorsqu'on se trouve dans... lorsqu'on a refoulé parce que c'était trop difficile, quelque part, ça prend de la place en nous ou ça a un poids particulier. Et ou bien même, quelquefois, on somatise. Hein. Et donc, on se retrouve avec le corps qui parle, qui vient dire, peut-être, là, j'ai besoin d'être écouté à un certain niveau. Donc, effectivement, il y a une différence entre ce refoulement et puis se sentir libre et léger. Si le pardon, si le travail a été fait, si la souffrance nous a quittés, et je crois que dans le pardon, il y a ce moment-là où, à un moment donné, on peut laisser partir la souffrance. Et lorsque la souffrance nous a quittés, elle nous a vraiment quittés. Tandis que si on a refoulé, si on est dans le déni, elle est quelque part encore, on la porte et on la ressent. Et c'est là où c'est important d'être attentif à ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Parce qu'on peut avoir les signes de « il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a quelque chose qui frotte dans la relation ». Il y a quelque chose, je me sens pas libre. Et ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la colère, il est vrai aussi que quelquefois on maintient cette colère vis-à-vis de l'autre parce que c'est encore une façon d'être en relation avec lui. C'est important de ne pas se juger, mais se dire, bon, voilà, qu'est-ce que j'ai, quel travail que je peux faire, quel est l'accompagnement que je peux me donner pour pouvoir traverser ça et me libérer de ce lien qui n'est pas un lien vivant, en fait. Et je crois qu'il y a une chose qui est importante aussi à savoir, c'est que quelquefois, selon ce que l'on a traversé ou les blessures que l'on a vécues ou reçues, on a besoin de beaucoup de temps. C'est un travail de patience.
Juste, est-ce qu'il y a un danger quand on ne sait pas si on a refoulé, si on n'est pas encore expert, si on a refoulé ou vraiment pardonné, est-ce qu'il y a un danger à regarder à nouveau la blessure? Voir s'il y a de souffrir encore ou pas.
La question du danger de regarder à nouveau la blessure qu'on a peut-être refoulée et non pas surmontée, c'est la question des couches de profondeur. Vous voulez dire un mot, Josiane?
Vous voulez préciser ce que
vous... si on a, est-ce qu'il y a un risque si on a effectivement pardonné?
Oui, si on a effectivement pardonné, on est léger, mais on a un doute. On se dit, bon, moi, je veux savoir si je suis en train, en fait, de me faire un gros déni. Je regarde à nouveau ma souffrance. Est-ce qu'il y a un danger que, qu'on ne pardonne plus, quoi, qu'on retombe, on repêche?
Moi, il me semble qu'il y a différents degrés dans la prise de conscience de la blessure et du péché. Et je pense notamment par rapport, il y a des attitudes qui sont, je dirais, psychologiquement déplacées, notamment des attitudes, je dirais, de manque de respect, par exemple. Donc on peut s'arrêter aux attitudes. Mais ces attitudes peuvent cacher des choses plus profondes, qui sont de l'ordre du cœur, comme un esprit de domination, comme de l'orgueil. Il y a des hommes, des femmes qui sont subtilement dominateurs, et la racine est dans un orgueil spirituel. Donc on peut avoir l'impression de, si on regarde simplement le comportement extérieur, on va dire, bon, il m'a dit telle parole, telle chose, bon, je pardonne, mais il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas entièrement pardonné, parce qu'on n'a pas non plus fait, il y a un travail de vérité aussi, et une profondeur de souffrance qui peut être cachée derrière une première réaction
par rapport au comportement. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais la loi générale, c'est que les péchés intérieurs du cœur, et je pense notamment à l'orgueil qui est le péché le plus subtil et le plus caché, c'est ça qui fait le plus de mal. Donc ce n'est que, je dirais, par couche qu'on arrive à surmonter le mal de l'autre au fur et à mesure aussi qu'on prend conscience, me semble-t-il, enfin qu'on prend conscience en tout cas, qu'on rentre plus profondément dans le combat spirituel, qui est de porter quelque chose qui est vraiment lourd, avec des apparences très... peuvent être très apparemment... il y a toujours des... Quand il y a quelque chose dans le cœur qui est vraiment profondément malade, il y a toujours au niveau extérieur quelque chose qui le traduit, mais ça peut garder des formes à peu près polies. Hein.
Donc sa question, c'est qu'on peut revenir pour aller plus en profondeur.
Mais moi, il me semble qu'on peut revenir. Hein. Il me semble, parce que il y a des... Ça a déjà depuis le début, c'est... Il y a 10 niveaux de pardon qui sont plus profonds, plus ou moins profonds, au niveau des niveaux de vérité aussi.
J'entends le mot danger. Est-ce qu'il y a un danger à revenir? Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs strates et on peut aller de plus en plus profond. Et si on a la crainte de rencontrer le danger, là c'est important de prendre soin de soi et de se faire accompagner. Parce qu'effectivement, je crois qu'il y a des zones, quand on a été profondément blessé, où il est difficile de retourner seul, recontacter la souffrance qui est en nous. Et ça, je crois aussi que, quelque part, c'est important de se faire confiance. On sait, nous-mêmes, quelque part, où sont nos limites. Et il y a un moment où, quelquefois, on peut faire ce travail, quelquefois, il faut attendre. Enfin, voilà, il y a quelquefois, il faut laisser les choses se reposer aussi. Mais l'important, c'est de ne pas y aller seul. C'est aussi de se faire accompagner, soit par un psychothérapeute, par un prêtre aussi.
Hein, voilà. Il y a des situations où on peut éprouver tout un malaise profond, une souffrance de cœur profonde, et dont en fait on ignore la vraie cause. Parce que la vraie cause, elle est dans le cœur de l'autre. Il n'y a que Jésus qui a pu tout porter, parce qu'il n'y a que lui qui a tout vu et tout ressenti dans son cœur, avec une profondeur que nous n'atteindrons jamais, et qui donc a pu assumer et vaincre le péché en toute vérité. Il y a aussi une chose claire, c'est qu'un pardon à donner peut en cacher un autre, au sens où, quand nous réagissons très violemment à quelque chose, habituellement, les psychologues parlent de réactions disproportionnées, pour dire qu'il y a un lien entre ce ressentiment qui vient, cette colère, disons, plutôt, et un ressentiment profond qui n'a jamais été, je dirais, purifié. Et habituellement, c'est la relation aux parents qui fait résonance, qui se trouve faire résonance avec la relation au conjoint. Ici, peut-être, il est bon de nous rappeler que la première femme que nous avons rencontrée, c'est notre mère, et le premier homme que nous avons rencontré, c'est notre père, et que les liens de la chair, il n'y a rien de plus fort au niveau humain. Je dirais, par rapport à ça, en tant que célibataire, je trouve un avantage de la vie conjugale, c'est de mettre assez vite à nu ses blessures, parce que, à force de rencontrer une femme, de vivre avec et de ce frottement des caractères dont on a fait parler, forcément il y a des choses qui vont rentrer en résonance avec la relation avec la mère, et à ce moment-là, ça ouvre la possibilité de faire un travail sur soi. Tout simplement parce que, je dirais, le mariage met à nu ce genre de blessures profondes.
J'ai eu au téléphone une personne qui, depuis 10 ans, n'avait pas pris conscience de ça. On a parlé pas mal de ce téléphone, parce qu'elle m'a appelé en me disant « j'ai plus d'autre solution que de me séparer de son conjoint ». Et en fait, elle n'avait absolument pas pris conscience de ça. Je lui disais, mais est-ce que tu réalises que tout chemin de purification que ça représente de vivre en couple, de commencer par à chaque moment de souffrance, de se demander, de chercher, de creuser pour savoir, au lieu d'accuser l'autre, de creuser pour savoir qu'est-ce qui n'est pas ajusté en soi, quelle blessure ça réveille, etc. Faire tout le travail de ne pas accuser l'autre, mais c'est toute notre vie, ça. Et en fait, au bout de 10 ans, donc, où elle me disait, mais je t'assure, j'ai tout fait pour supporter sans rien dire. Et je me disais, mais c'est fou, parce qu'elle avait l'impression, au bout de 10 ans, donc, d'être dans l'impasse, il n'y avait plus qu'une solution, c'était de se séparer. Et donc, il y a vraiment un travail pratiquement quotidien de faire attention à ce qui nous blesse et pas passer dessus, mais travailler au quotidien. Et c'est libérateur et ça permet des petits pardons journaliers. C'est plus facile que de, au bout de 10 ans, de se retrouver devant une montagne qui paraît infranchissable, quoi.
Maintenant, essayons de rentrer dans un regard de foi par rapport à tout ce dont nous avons parlé. Nous croyons en un Dieu qui a assumé la condition humaine, mais pas seulement la condition humaine, mais toute la réalité du mal, qu'on a porté tout le poids, qu'il l'a vaincu sur la croix, et qui, de ce fait, a donné un sens à la souffrance, qui a offert un chemin de résurrection et de vie là où le mal semblait triompher. Ce que je veux dire, c'est que le pardon, il s'inscrit à l'intérieur d'une œuvre de rédemption. D'une œuvre de rédemption qui n'est pas simplement, je dirais, le fait que nous puissions être libérés de cet étau qu'est le ressentiment, mais que de fait, à travers ce chemin du pardon, il y a des chemins nouveaux et des portes qui vont pouvoir s'ouvrir dans notre vie. Et donc, si Dieu a permis que nous soyons blessés, c'est pas pour rien. Ça ne peut être que pour un bien plus grand. Donc, il s'agit encore une fois pas simplement de surmonter le mal, mais de laisser Dieu tourner ce mal en bien. Et c'est à la base un acte de foi et d'espérance que l'on pose en la capacité qu'a, non pas notre pauvre cœur humain, mais le Christ en nous, à travers cette grâce du pardon, de transformer effectivement le mal en bien. Dieu sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il permet. Il y a avant d'avoir encore pu pardonner, il y a donc un regard par rapport aux événements, à ce qu'on a eu à subir dans sa vie. Il y a un regard de foi qui nous remet devant Dieu. Et au fond, ça peut faire partie, vous voyez, du chemin du pardon vis-à-vis de l'autre, que de se remettre d'abord devant sa destinée. Dieu a permis que je passe par là. Et au fond, d'abord, de se réconcilier avec Dieu. On a tendance à dire, mais Dieu, il n'a pas voulu le mal, de toute façon, Dieu, il ne veut pas ça, Dieu, il sait que je souffre, Dieu, il veut me consoler, me guérir. Enfin, Dieu, il sait ce qu'il permet. J'insiste parce que à vouloir mettre Dieu hors jeu, on ne cède pas soi-même. Parce que la réconciliation, elle doit être plénière, c'est-à-dire à la fois avec celui qui dirige notre vie et ceux que nous avons rencontrés dans notre chemin de vie, qui nous a donné nos parents, Dieu. Est-ce qu'il savait, quand il nous a donné de naître dans telle ou telle famille, que nous serions blessés? Oui. Pourquoi il l'a permis? Parce qu'il a assumé ce mal, et qu'il est capable, par sa croix et par la résurrection, d'ouvrir un chemin de vie. Là, je pars sur une base qui est solide et qui me donne la force d'aller de l'avant parce que je crois en un Dieu qui, en définitive, tient tout dans sa main. Aussi parce qu'il assume tout, un Dieu proche, un Dieu qui traverse ma vie et qui la dirige. Et donc, ne cédons pas à la tentation de mettre Dieu de côté par rapport à ce qui regarde, au fond, finalement, notre destinée mystérieusement. Les chemins de Dieu sont insondables. Et d'accepter que, évidemment, Dieu respecte la liberté humaine, mais, encore une fois, il ne permet un mal que parce qu'il sait qu'il pourra en tirer un bien plus grand. Sinon, il ne le permettrait pas. Il faut arriver à unir l'infini respect de Dieu à la liberté humaine. Et on voit jusqu'où cette liberté humaine peut aller au cours du XXe siècle, particulièrement impressionnant, dans le refus de Dieu, les conséquences de ce refus de Dieu. Mais en même temps, nous n'aurons jamais trop confiance en la providence divine qui sait, comme on dit, tracer des lignes droites avec des courbes. Par rapport à ça, il y a vous connaissez peut-être le petit Van, dont le procès de béatification est en cours et qui a eu des colloques avec Jésus enfant. Le petit Van, à un moment, était en colère contre son maître des novices parce qu'il était d'un milieu très pauvre et le maître des novices l'humiliait beaucoup du fait de ses limites. Et à un moment, Jésus lui apparaît, lui dit « Mais enfin, t'es comme les chiens, quand on leur jette une pierre, ils s'attaquent à la pierre au lieu de regarder celui qui l'a jetée. » Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé de me dire « Attends, cette personne, c'est Dieu qui l'a mis sur ton chemin. » Et oui. Et à ce moment-là, je reprends l'espérance. Si c'est Dieu qui m'a mis sur mon chemin, c'est que ça a un sens. Parce que lui est tout puissant. Et il n'est que bonté. Et donc, s'il l'a permis, ça ne peut être que pour mon salut éternel et intégral. Et croyez-moi, le fait d'avoir ce regard de foi et d'espérance est une force puissante pour aller de l'avant sur le chemin difficile, parfois amer, du pardon.
J'étais la semaine dernière, j'ai beaucoup médité sur ça, sur le fait que le Seigneur permettait le mal, et que certaines choses me fâchaient, me mettaient en... Je me disais, c'est insupportable d'imaginer. Et donc, j'ai été contente de lire ce matin sur Internet le pape Benoît XVI qui a dit, dimanche, pour la semaine sainte, de crier et de se lamenter pour le mal, mais en face de Dieu, de le faire comme Job l'a fait et comme Jacob l'a fait toute la nuit. Et il demandait de faire ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien de me dire qu'on avait le droit de crier notre souffrance ou notre révolte en face de Dieu par rapport à ce mal que Benoît XVI nous y encourage pour cette semaine sainte. Donc, de pouvoir, parce que ça libère quand même de pouvoir le dire à Dieu, quoi.
Une chose est d'avoir ce regard de foi, une chose est de se réconcilier effectivement avec Dieu et avec sa providence qui a permis. Tu parles de Job, écoute, rappelez-vous le dialogue avec sa femme. Au moment où Job se retrouve, donc... s'installer parmi les cendres ayant tout perdu. Sa femme lui dit « Pourquoi persévérer dans ton intégrité? Maudis donc Dieu et meurs. » Job lui répondit « Tu parles comme une folle. Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accepter de même le malheur ?» Voilà la foi. Accepter accueillir les choses de la main de Dieu dans la foi, ça ne veut pas dire se résigner passivement, ça veut dire croire en la force de cet acte de foi aussi et d'espérance qui va laisser passer la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a des actes concrets que Dieu attend de nous pour nous disposer à cette grâce du pardon? Si nous lisons l'Évangile essentiellement, je n'insiste pas à la prière. C'est évident que la prière élargit notre cœur, purifie nos pensées, elle nous dispose donc de prier pour la personne qui nous a offensés, comme le demande Jésus. Aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs. Ça fait partie de ces petites choses que même si l'on fait que du bout des lèvres, comme à contre-cœur, qui vont nous préparer à cette grâce du pardon. Une autre chose que nous indique l'Écriture, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, c'est, et ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ces charbons ardents, c'est ceux de la charité divine, comme un feu, hein, qui consume le mal du péché. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien. Nous sommes vainqueurs en définitive du mal par le bien grâce au pardon. Hein, c'est la victoire radicale, le pardon de tout cœur, mais il y a aussi ces petits actes concrets qui peuvent préparer cette victoire finale. Je note simplement que cet attachement à la colère, comme je l'ai dit au début, qui est le vrai péché, c'est notre complicité intérieure au ressentiment, c'est de ne pas lâcher le ressentiment. Prendre conscience de ce péché, prendre conscience que ce péché spirituel, qui est notre attachement à la colère, non seulement étouffe notre cœur, étouffe le cœur de l'autre, mais quelque part étouffe le cœur de Jésus. Comme un glaive, ou une couronne, je ne sais quoi, quelle autre image, ou des clous que l'on enfonce dans son cœur et dans sa chair. Prendre conscience que c'est d'abord Dieu qui souffre de notre endurcissement. C'est une très grande grâce, c'est, comme nous l'avons dit la dernière fois, la grâce de la contrition. Une grâce que nous pouvons demander. En définitive, de pardonner, pas simplement pour me guérir moi-même, pas simplement pour laisser Dieu transformer ce mal en bien, pas simplement pour ouvrir la porte donc d'une résurrection, mais tout simplement par amour pour Jésus. Nous pouvons soit l'aider à triompher et à opérer son œuvre de salut, soit le crucifier à nouveau. Nous allons peut-être conclure simplement. Nous remettons devant cet acte qui a sauvé le monde, cet acte d'amour que Jésus a vécu, fonde son cœur sur la croix, et dont Benoît XVI parle comme d'une fission nucléaire, une explosion du bien, de penser que par le pardon, nous participons à cette victoire de l'amour qui assume et qui surmonte le mal, et nous laissons donc, je dirais là, toute la puissance de la rédemption opérer à la fois dans notre cœur et dans la réalité. Et c'est la plus grande victoire que nous puissions vivre dans notre vie. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.